C'est un peu comme une troupe de théâtre au lycée qui toute l'année prépare sa représentation. Les vendanges sont le point culminant d'une saison à la vigne. Non pas qu'il soit le plus important, encore moins le moment où tout se joue, tout le temps le soin apporté aux plantes et au sol en amont et les choix de vinification en aval ont aussi une importance capitale dans ce qui fera le vin. Mais les vendanges, c'est un moment unique, le révélateur de ce que sera le millésime qui propose au vigneron le matériau sur lequel il pourra exercer son talent fait d'expérience, d'instinct et d'inspiration. Enfant, je me rappelle que la cour de l'école donnait sur la cave coopérative et nous regardions à la récréation le défilé incessant des tracteurs qui déversaient leurs raisins dans le pressoir. Dans l'air, il y avait ce parfum intense de jus saturé de sucre, dans la chaleur souvent intense elle aussi, du mois de septembre. La rentrée scolaire, pour moi, c'était les vendanges. Ce 59e épisode se nomme « Ah, les belles vendanges en Beaujolais ». Bienvenue dans la Terre à boire. C'est exceptionnel, pour une fois il y a du public et on remercie les amis qui sont venus là assister à l'enregistrement. Il sera donc question de vendange aujourd'hui, vous l'avez compris, et qui mieux qu'un vigneron pour en parler, qui mieux que notre vigneron maison habitué de ce micro, Philippe Viette, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, si, bonsoir. Tu veux, si tu préfères, effectivement. Voilà. On va parler de vendange avec aussi un autre ami de la Terre à boire qui t'accompagne aujourd'hui. Il a participé à ses premières vendanges du domaine Philippe Viette, le bien nommé. Comme à son habitude, il a pris des notes, des photos et du son. C'est l'ami Mathieu Mouillet, écrivain voyageur dont vous pouvez suivre les pérégrinations et les superbes clichés sur le site lesvoyagesdemath.com et bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ben, impeccable.
Ravi de te retrouver. Tu étais déjà venu à ce micro nous faire déjà écouter des sons quand tu étais au milieu de ton Tour de France. Pas de Tour de France, tu as traversé de la France en diagonale, la fameuse diagonale du vide. Ouais. C'était une soirée champagne.
Et là, je me suis transformé en vendangeur.
Oui, on va en parler. Une soirée champagne qui se déroulait.
La transmutation a été réussie.
Qui se déroulait au Wine Therapy, dont le patron est ici avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Demso. Patron du Wine Therapy, rue de Montholon, à Paris 9e, et qui est aussi l'homme qui commet les planches que nous dégustons tout en buvant les vins, du fromage et de la charcuterie, que des bonnes choses. Mmh. Je continue le tour de table. Un autre pilier de l'émission, Patrice Defay, bonjour.
Bonjour.
Toujours là, toujours au poste. Ouais. Voilà. On a raté les vendanges, hein, parce qu'il a eu bon goût de les faire du mardi.
Au milieu de la semaine.
Du mardi au jeudi, histoire qu'aucun Parisien ne vienne.
Du mercredi au samedi, pour être plus précis.
Exactement,
plus
mercredi au samedi. Ouais.
Toucher ses raisins. Finalement, on n'est pas venu. Et j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle chroniqueuse à la table de la Terre à boire. Bonjour, Louise Bouet.
Bonsoir.
Alors, Louise, tu travailles à La Truffière, le restaurant La Truffière, aux côtés de quelqu'un qu'on connaît bien ici, Florence Aragoni.
C'est exact.
Voilà, vous êtes toutes les deux sommelières de ce grand restaurant. Et de la cave juste en face qui s'appelle l'ABC du vin.
Oui.
Ben, bienvenue.
Voilà. Merci.
On est ravis de t'avoir.
Je suis enchantée d'être ici.
Pour parler de vendange. Messieurs, dames, les vendanges, est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Est-ce qu'on va parler d'abord, Philippe, toi, ça vient juste de se terminer, hein, il faut le dire, quand on parle, là, ça fait 2 semaines que vous avez raccroché les sécateurs.
Ouais, ça fait... On a ramassé la dernière parcelle, donc c'était les Beaujolais du Lage le samedi 21. Et puis bah après, y a toutes les phases de suivi de macération. Et puis ensuite de pressurage. Donc les pressurages ont eu lieu le week-end, donc pas ce week-end précédent, mais le week-end d'avant encore.
On va décortiquer tout ça.
Voilà, on va décortiquer tout ça. Et puis là, ce matin, j'ai mis en élevage mon dernier vin. Voilà, donc ce matin, là, à 10h30, j'ai fini de mettre...
Ça veut dire que le sprint qui commence avec le début des vendanges s'arrête là. Et maintenant, ton vin est en élevage.
Maintenant, le vin est en élevage. Et puis,
tu peux souffler un peu.
On peut souffler. On est dans une phase de... en fait, il va falloir déguster, être attentif, protéger aussi le vin. Et puis là, surtout, ce qui m'importe, c'est que voir si le vin fait sa fermentation malolactique, donc qui est la deuxième fermentation qui a lieu après la fermentation alcoolique. Et puis ensuite, bah voilà, dans une dizaine de mois, je descends en fonction de la dégustation, je déciderai de le mettre en bouteille.
Alors, pour commencer, on va essayer de décortiquer un peu cette séquence-là des vendanges qui est si importante dans la vie du vigneron. Mmh. C'est une semaine, deux semaines, toi c'était quatre jours, c'est ça?
Intense. Moi c'était quatre jours parce que j'ai 2,5 hectares actuellement. L'année prochaine, ça sera une autre paire de manches parce que je vais doubler quasiment ma surface.
C'est quelques semaines de toute façon, même dans les grands domaines.
Voilà, c'est ça. Après, bon,
ouais, il y a maturité.
C'est sur des gens qui ont 17 hectares où c'est une autre gymnastique parce qu'il faut réfléchir et bien ordonnancer le jour où on va récolter parce qu'il y a peut-être des parcelles qui sont mûres en même temps ou qui se succèdent, donc c'est toute une organisation. Moi, ça a été assez simple dans la mesure où j'ai des vignes en fait il y en a une qui est en basse altitude et puis le reste en fait ça se suit et on monte en altitude.
Donc ça, c'était la lecture simple.
Voilà, je commence par la vigne du bas qui atteint sa maturité un peu avant les autres et puis j'enchaîne jour après jour pour récolter, pour finir par les Beaujolais villages qui étaient vraiment qui sont à 500-550 mètres donc j'ai plus de fraîcheur et une maturité qui met plus de temps à arriver donc je peux attendre quelques jours avant de les récolter.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la maturité justement parce que comment ça se détermine
en fait il y a des vignerons qui vont goûter jour après jour, semaine après semaine les becs, qui vont avec les années d'expérience te dire bah là on est à 2 semaines, là on est à peut-être 2-3 jours.
C'est
là.
Un bruit qui court.
Enfin voilà, c'est du
15 ans.
Non mais c'est voilà c'est une question de
ouais,
goûter.
Non mais
il y a aussi un peu de tout, il y a de l'olfactif, il y a du visuel, il y a le goût. Quand vous prenez une baie de raisin à quelques semaines des vendanges, bah vous regardez l'épaisseur des peaux. Quand les peaux sont encore épaisses et que les anthocyanes, donc en fait les anthocyanes c'est les composants qui font que le jus a une couleur ou pas. Bah quand ça sort difficilement, vous savez que bon, on n'est pas encore là. Après, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez l'aspect des pépins de raisin. Si vous croquez dedans et qu'ils sont encore un peu, enfin que c'est très vert et que la couleur est verte, on est loin de la maturité. En fait, un signe de maturité, bah, c'est des pépins qui sont un peu marron, brun, qui goûtent un peu amer. Et puis bah, une peau qui est où quand vous appuyez dessus bah, en fait le jus devient rouge, en fait vous avez de la couleur plein les doigts et puis évidemment vous sentez que vous avez un équilibre dans la bouche entre bah, une quantité de sucre et puis un niveau d'acidité qui fait que bah, y a une harmonie.
Parce qu'en fait il y a plusieurs types de maturité si je ne m'abuse, non?
Il y a une maturité technologique qui est en fait la maturité qui est liée en fait au niveau de sucre. Mmh. Et il y a l'autre maturité qui est liée en fait à la structure du raisin,
les phénols,
le raisin, enfin le pardon, les tanins, la couleur, les anthocyanes. Donc ça aussi c'est des indicateurs.
Ce qui est difficile, c'est bien de faire coïncider ou en tout cas trouver la date qui correspond
à l'optimum entre les deux ou trois. Sachant que à l'optimum. Votre niveau de sucre et votre niveau d'alcool continue à monter plus les jours passent, l'acidité décroît. Donc c'est là où il faut être un peu voilà, c'est...
Un jour tu nous avais parlé de la maturité de la grappe elle-même, du matériel végétal. C'est aussi quelque chose que
de la rafle.
C'est quelque chose que tu mesures ou de toute façon c'est le raisin qui donne.
En fait tu sais que la rafle est mûre ou pas en fonction de sa couleur. Là en fait cette année on avait des rafles qui étaient vertes, qui étaient
pas du tout mûres,
qui étaient pas ça a incité pas mal de vignerons à égrapper une certaine quantité de leur... De leur vendange, pas complète, mais certaines. Moi, j'ai pris le choix, en fait, délibéré de faire de la vendange entière. Parce que j'avais une vendange chaîne. Et ça m'a. Enfin, voilà, ça m'arrangeait aussi, d'un point de vue logistique, de faire que de la vendange entière.
C'est aussi une tradition en Beaujolais, si j'ai bien compris.
La vendange en Beaujolais, en général, elle est vinifiée. Vendange entière, donc c'est-à-dire avec la rafle, avec une technique pour les crus qu'on appelle la semi-carbonique, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la macération beaujolaise. Donc vous avez des raisins qui sont mis en cuve avec la rafle et avec la gravité, les raisins du dessus vont appuyer sur les raisins qui sont en dessous, ça va créer du jus. Le jus va commencer à rentrer en fermentation. Et la fermentation dégageant du dioxyde de carbone, qui est un gaz inertant qui chasse l'oxygène. Vous avez une deuxième fermentation anaérobie, c'est-à-dire qui a lieu sans oxygène, qui se passe, qui est une fermentation qu'on peut qualifier d'intracellulaire, où en fait les raisins en fait se dégradent de l'intérieur et qui donne aussi ces caractères un peu fruités. Des vins dans le Beaujolais. Voilà.
Tu nous parles de vinification, mais pour les vendanges, tu as fait une vendange manuelle ou plutôt en machine?
Question perfide.
Pas du tout.
Est-ce
perfide.
Que tu as sorti la machine pour accueillir ces deux
La question se pose et notamment la question des avantages raison. Et des inconvénients de chacune des méthodes.
Dans les crus, il y a dans les crus et dans les chartes. Dans les chartes des crus, il est stipulé qu'on fait de la vendange manuelle.
Le cru en question, c'est d'accord. Le cru Régnier. Hein.
Voilà, c'est le cru Régnier. Mais bon, sur les crus du Beaujolais, c'est une vendange manuelle.
Je vous interromps juste, parce qu'on parle de cru du Beaujolais, on a des choses dans les verres, il faut juste que tu nous dises qu'est-ce qu'on est en train de boire, parce qu'après on va goûter des trucs qui sont... En cours,
après on va partir dans
la fabrication.
Alors, normal. Effectivement, j'ai apporté un Beaujolais Village blanc, de chez Jean-Claude Lapalu. La production de blanc dans le Beaujolais doit être de l'ordre de 2% des volumes. Ah oui. C'est exclusivement du chardonnay. Voilà. Donc je vous laisse goûter, puis peut-être faire vos commentaires dessus.
On avait déjà fait un, quand on avait fait le cycle Beaujolais, on avait commencé avec un blanc,
Jean-Paul Brun.
Jean-Paul Brun,
les terres dorées,
qui est un vin que moi je continue d'acheter et qui est très joli. J'ai même trouvé des restaurants à Paris qui le servent et c'est très fin.
On l'a à la Truffière.
Vous avez le Jean-Paul Brun, terre dorée.
Terre dorée à la Truffière.
Tiens, la parole, Louise. Qu'est-ce que tu penses de ce Beaujolais blanc de chez Lapalu?
Eh ben, il est assez frais, on est sur du fruit, pas mal, un petit peu de poire et puis...
Ah, le nez dedans, on goûte. Sommelière en action.
Allez.
Et puis voilà, c'est frais en bouche, c'est sympa, ça se boit facilement. Bien. On aime ça.
On aime ça. Voilà. C'est très, très désaltérant. Toi, oui. Tu n'as pas de blanc, Philippe.
Non, c'est dans les plans. J'ai 21 arts de terre à replanter que j'aimerais bien replanter.
En chardonnay ?
En chardonnay. Bon, chemin, <ouais. rire> je suis un peu schizophrène. Ouais. Et que j'aimerais bien replanter en chardonnay pour faire des Beaujolais village blanc, en fait.
Mathieu, toi, tu étais là un peu en...
T'as prêté
la main, hein, t'as donné un coup de main, t'étais là.
J'ai
aussi.
Vu les... plus que ça, même.
On j'ai vu les raisins arriver, moi.
Qu'est-ce que c'était qu'est-ce que tu retiens de cette expérience?
Moi, c'était hyper intéressant parce que j'ai plusieurs fois fait les vendanges, notamment dans le Beaujolais, mais c'était la première fois que j'étais côté cuve. Moi, d'habitude, j'étais plutôt côté coupe, ce qui est aussi sympa. Hein, on est à l'air libre, dans les monts du Beaujolais, c'est joli, il y a la brume du matin, là c'est très champêtre.
C'est physique aussi.
Ouais, c'est physique, mais en même temps, il y a la bonne ambiance du soir. Moi, c'était des très bons souvenirs, mais ensuite, on n'a pas du tout accès à l'alchimie du vin, qu'est-ce qui devient, comment le jus se transforme. Et là, pour le coup, j'ai vraiment vu tous les jours comment ça se passait, et surtout comment le jus... En fait, moi, je fais de la photo et ça me fait vraiment penser à la manière dont la photo argentique, quand on la plonge dans les bacs,
se révèle.
Cristallise et se révèle. Ouais. En fait, c'est la même chose. En quelques jours, on voit vraiment le jus devenir vin. Et ça, c'est... Il y a un côté un peu magique, quoi.
C'est vrai.
Quelles sont ces étapes on imagine aisément que... Voilà, il y a la question du choix du jour. Ok, tu en as un peu parlé. Bon, ben ça, de toute façon, c'est une mesure scientifique et puis aussi un feeling du vigneron qui sait à peu près où il veut aller. On décide du jour. On commence à couper. Le raisin arrive. Quels sont les choix, l'enchaînement de choix que tu dois faire en tant que vigneron? Tu as parlé de les raflages ou pas, grappentière ou girafe. Est-ce qu'il y a d'autres choix comme ça qui s'imposent? Il faut décider quelle cuve pour quel raisin?
Non, en fait... Le premier jour, en fait, tu te poses pas trop de questions parce que comme les cuves sont pas encore remplies, de toute façon,
Mais tu recuves pas. Toi, par exemple, t'as plusieurs types de cuves. T'as de la cuve béton, t'as un œuf aussi.
En fait, non, je vinifie principalement en cuve béton. J'ai un œuf dans lequel j'ai vinifié mes villages parce que j'aurais pas eu de la quantité suffisante pour vinifier dans une cuve béton de 60 hectolitres. Parce qu'il faut un certain volume pour remplir, pour conduire une fermentation dans une cuve béton de 60 hectolitres.
Ah, tu veux dire que la cuve béton, si elle est remplie qu'à moitié, la fermentation, elle risque de ne pas partir correctement.
Tu n'as pas suffisamment d'inertie thermique en fait, pour conduire une fermentation.
Parce que ça monte en température.
Oui, oui. Et puis surtout, en fait, c'est-à-dire que quand tu as une cuve béton qui n'est pas remplie, pas beaucoup remplie, en fait, tu n'as pas suffisamment de poids. En fait, pour que le jus éclate sur le fond de cuve pour démarrer une fermentation. Et puis après, comme t'as pas de montée en température, tu crées pas une dynamique, les levures créent pas une dynamique suffisamment forte pour pouvoir assurer la continuité de leur activité. Donc c'est voilà. Moi, le premier jour, j'ai une parcelle d'un hectare. Je sais que sur un hectare, je vais facilement le faire tenir dans une cuve de 60 hectolitres et que je vais pouvoir créer une cinétique fermentaire hein, pour utiliser des termes techniques.
En clair, que la fermentation parte.
Voilà,
démarre dans de bonnes conditions.
Et qu'elle se soutienne, qu'elle soit capable de s'auto-alimenter. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mes raisins arrivent au cours de la journée au cuvage. Moi, j'en cuve par l'extérieur. Mes raisins, en fait, ils arrivent à l'extérieur. Et j'ai en fait des fenêtres dans mon cuvage qu'on appelle des trapons et qui donnent en fait sur les cuves. Donc, j'ai en fait un couloir à vendange qui s'emboîte avec une table de tri dehors. Les raisins, en fait, sont déversés en caisse, par caisse.
Après être triés.
Après, enfin, voilà.
On n'a pas parlé de ça. Tu as trié également.
Ouais.
C'était l'ex des chouettes. En même temps, le raisin était super beau. Donc, du coup, voilà.
Qu'est-ce qu'on écarte à la table de tri?
On écarte, en fait, ce qui est pourri.
Il y a de la pourriture quand même?
Moi, j'avais pas de pourriture en fait. Parce que
t'as rien foutu en fait, Mathieu.
J'ai enlevé les petits résineaux et
les feuilles.
Le vert pour peu qu'il y ait un petit peu de vert.
Tout ce qui est sec, les insectes, les raisins qui sont pas arrivés tout à fait à maturité, qui sont encore un peu roses. Et voilà, quand il y a du pourri, peut-être un peu. Mais globalement, ça a été un travail qui a été assez, assez simple parce que nous, dans mon secteur, on a été épargnés par mildiou, oïdium, grêle, gel. Donc j'avais de la vendange très saine. On était deux, trois sur la table de tri et du coup, les raisins étaient très vite triés et tombaient très rapidement dans la cuve.
Le défi, c'était plutôt d'envoyer le plus vite possible parce qu'il y avait quand même
derrière,
du raisin qui arrivait derrière.
Voilà, c'est ça. C'est nous, il fallait qu'on tienne la cadence parce que comme
on était 25 mecs qui coupaient et il y avait deux mecs qui recevaient donc
tu dis que le raisin arrivait dans des caisses
je récolte en caisse
derrière le tracteur
et pas en bac, donc c'est à dire qu'en fait dans le Beaujolais, la tradition c'est de la vendange en grand bac de 30 hectos. Donc vous avez dans la vigne les gens qui coupent, et puis vous avez un gars qu'on appelle le porteur, ou dans le jargon Beaujolais, c'est le jarlot. Et donc, il porte une hotte, et une fois qu'un vendangeur a un seau qui est plein de raisins, il appelle le jarlot, et puis le gars vient et il déverse son seau dans dans la hotte.
Et en général, il est assez charpenté, quelqu'un voilà, un peu c'est costaud. Ça.
Et une fois que la
c'est hotte, pas un jarlot.
Une fois,
non, voilà, c'est un Golgoth en fait.
Voilà. Et une fois que la hotte est pleine, il marche jusqu'au bac, et puis il déverse sa hotte de vendange dans le bac, et puis il repart à la vigne. Voilà. Ce qui fait que...
Le bac, c'est...
C'est un grand bac de 30 hectolitres, en fait, qui peut charrier quand même un
pack... Qui est accroché au tracteur,
voilà. Et donc, vous imaginez que 30 hectolitres, ça fait quand même pas mal de raisins. Et donc, du coup, avec le poids...
Ça malmène déjà
En fait, la vendange est un peu triturée. Avec le poids, il y a parfois du jus qui éclate au fond du bac. Et parfois, il y a des fermentations spontanées qui peuvent démarrer.
Surtout quand il fait très chaud.
Et moi, c'est des trucs, ça me stresse. Quoi.
Tu voulais éviter ça.
Voilà, c'est des trucs que j'ai envie d'éviter parce qu'il peut y avoir très vite de la piqûre acétique, des défauts qui commencent à arriver. Et donc, la vendange en caisse permet... Bon, c'est beaucoup plus de boulot, hein. Mais ça permet aussi de moins malmener la vendange, d'avoir une vendange qui est moins maltraitée, qui est plus respectée dans son intégrité. Et quand ils arrivent au cuvage, il n'y a plus qu'à les trier.
Alors, renverser toutes les cuves aussi. Ouais, parce ça. Que les cuves, elles font quoi 20 kilos, non? Les caisses.
Ah ouais, les petites caisses font 20 kilos et les grandes caisses, elles font 30-35 kilos. Donc voilà, ça fait du sport, c'est sympa. Alors, ça c'est un truc, le tri d'où ça vient dans le Beaujolais, hein, c'est des gens comme... j'en discutais avec Jean-Paul Thévenet il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'est Marcel Lapierre et toute sa bande de potes là, qui ont commencé à faire ça à une époque dans le Beaujolais. Trier les raisins.
Les pionniers du bio,
voilà, on triait pas.
Les vins nature.
Et quand ils ont commencé à décider de trier leurs raisins, avant d'en cuver, mais les gens leur ont dit mais vous êtes des tarés. Et puis en fait maintenant beaucoup de gens le font. On voit quand même beaucoup de gens vendanger en bac, mais ça n'empêche pas de faire des bons vins, hein. Après je pense que pour des vignerons qui n'utilisent pas de soufre, je pense que la vendange à la caisse, c'est absolument nécessaire. Et puis ça garantit d'avoir le moins d'ennuis possible pendant tes vinifs, surtout si tu mets pas de soufre, quoi.
Et alors là, t'as eu quel type de rendement hectare là sur cette année?
Alors moi, je m'en suis pas trop mal tiré. J'ai eu des rendements, je dirais entre 35 hectolitres hectare. Il y a peut-être une de mes parcelles qui m'a fait, 40 hectolitres à l'hectare, ce qui est pas mal pour l'année. Évidemment, c'est rien de comparable avec 2018 où on a explosé les rendements et on a eu une année assez exceptionnelle d'un point de vue qualitatif et aussi d'un point de vue quantitatif. Après, on peut pas tout avoir. Je suis plutôt content d'avoir eu une belle récolte, même si j'ai pas des rendements non plus faramineux. 2,5 hectares, je me retrouve avec 72 hectolitres de vin. Ça me fait presque 10 000 bouteilles. Je me dis que pour une première année, c'est pas mal parce que les 10 000 bouteilles...
Surtout à 120 euros la bouteille, ça va...
Voilà, c'est ça. Je vais pas me gêner.
Il va falloir les voir. Hein.
Voilà. Non mais je veux dire, après c'est du boulot, hein, pour les vendre quand t'es pas nécessairement connu et qu'on t'attend pas, et puis surtout que quand t'es sur une appellation comme Régnier qui est moins visible que les grands frères de Morgon ou de Fleury. Ça fait partie du jeu, et c'était aussi le challenge que j'avais envie de relever, c'était de m'inscrire dans une dans un cru où il y a une dynamique qui est en train de se créer entre des vignerons de la jeune génération qui ont envie de faire un peu bouger les lignes.
On a parlé de ce qui se passait avant que le raisin entre en cuve, donc on le presse et tu l'encuves.
On le presse pas.
Ah, tu le presses pas.
Non.
Tu n'as pas de pressoir.
Si, j'ai un pressoir. Alors pour faire très court, les blancs, quand les blancs sont récoltés, on les presse, on prend le jus et le jus part en fermentation. Les rouges, Ils arrivent au cuvage, ils sont triés, ils sont encuvés. Il y a une macération qui se passe. Et au bout d'un certain temps de cuvaison que le vigneron estime en fait, il prélève ce qu'on appelle le jus de tir, donc le vin, le jus qui est dans la cuve. Et ensuite, il prend le marc qui est dans la cuve et il le met dans un pressoir, il presse. Et le jus de presse est assemblé au jus de tir. Et ensuite, le vin part en élevage. Voilà. Donc moi, j'ai pressuré mes vins à peu près 15 jours après 15 jours de cuvaison. Voilà.
15 jours. Donc ce choix, c'est un choix qui est fait en goûtant régulièrement les jus.
Alors, c'est un choix qui se fait et d'une... parce que en fait, tu as tous les jours, en fait, tu as un suivi de fermentation qui consiste à prendre la densité de ton jus. Parce qu'en fait, la densité, qu'est-ce que ça t'indique ? La densité, c'est la densité de sucre par rapport en fait au liquide. Et pendant tout ce temps, en fait, au cours de la fermentation, le sucre va être dégradé en alcool. Donc, le niveau de sucre va baisser, le niveau d'alcool va augmenter, et donc la densité de ton jus en sucre va diminuer. Donc, tu commences par exemple, quand tu récoltes des raisins qui ont par exemple un potentiel alcoolique de 13 degrés, tu es à ce qu'on appelle une densité de 1100. Donc tous les jours, tu vas voir en fait ta densité diminuer au fur et à mesure, et puis à un moment, tu vas passer... en dessous d'une densité de 1000. 1000, c'est la densité de l'eau. L'alcool étant plus lourd que l'eau, la densité de l'alcool va être inférieure à 1000. Voilà. Et donc, du coup, moi, je vais décider un peu de décuver aux alentours de 994, 993, sachant que... tu peux très vite arriver à un vin sec. Au bout de 5-8 jours, on peut très, très rapidement arriver à 11-12 degrés d'alcool. Mais
Là, tu décris des chiffres, donc c'est des mesures scientifiques que tu fais.
Ce sont des mesures, oui.
Il y a aussi des choses que tu goûtes et un ressenti de la bouche.
Au début, ce qui est très intéressant, en fait, c'est ce que Matt disait, c'est de voir en fait l'évolution de ton jus. En fait, c'est que au début, tu as un jus qui est extrêmement sucré, quoi, qui est très du sirop de raisin, donc c'est très prenant, quoi. Et puis, il faut savoir que le sucre masque beaucoup d'aspects, masque le fruit, l'acidité, la structure, et donc. Au fur et à mesure où ta macération va se passer, tu vas avoir un vin qui va commencer à prendre forme parce qu'en fait il y a plus d'alcool, ton vin se dépouille, le jus se dépouille et on a le fruit, les tanins, tu peux décider d'extraire en faisant des foulages, du pigeage, des remontages pour extraire des tanins, de la matière. Donc voilà, c'est le goûter aussi, le ressenti qui te fait prendre ces décisions-là.
Alors, on va écouter justement un son. Tu avais de la chance, tu avais Mathieu Houillet avec toi, qui prend des sons et qui est donc enregistré une petite séance de dégustation directement depuis la cuve.
Je vais enlever le petit couvercle. Petit couvercle magique.
Et donc ça, c'est les raisins que tu as récoltés
C'est les raisins qu'on a récoltés hier, là. Ça va être mes Beaujolais villages, donc je vais voir ce que je vais en faire. Peut-être une cuvée très sur le fruit, très un peu sympa, avec une cuvaison courte pour garder du fruit, quelque chose de gourmand, de friand,
de gourmand,
des gourmands, et puis de digeste. On avait des beaux raisins. Bon, c'est un peu, vous êtes un peu pris la tête hier avec Adrien pour les trier, quoi, parce qu'il y avait quand même un peu de tri. Et puis vous avez bien bossé parce qu'en fait on a gardé que le plus beau. Ah, mais ça fait déjà une belle cuve, quoi. Allez, on va tirer le jus. On va y aller, petite vanne.
Ah,
Ça sent bon. La petite mousse là qui a au-dessus du jus là, ça veut dire que c'est parti en fermentation. Et puis qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On enlève la mousse. On prend le mustimètre, donc qui me sert à mesurer la densité. Et hop, la plonge. Je dois être un peu en dessous de 1100. On est même au-delà de 1100, on est à
1103.
1105, 1303, ouais, c'est ça. Voilà. Mais bon, en tout cas, on a une fermentation qui est en route. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je suis plutôt content. Et d'ailleurs, je vais te faire goûter. Je vais goûter d'ailleurs. Santé. C'est encore sur le sucre. C'est encore très levurien parce que c'est le début de fermentation, donc toutes les levures travaillent. Donc, alors, fraise, cassis, mûre, framboise.
Banane. Je pouvais pas ne pas la faire.
Ah oui, la vieille blague.
C'est la bonne vanne.
Du Beaujolais.
Le gros pensif.
Banane.
C'est honteux. C'est honteux de dire ça.
Là, alors, c'est pas le même jus qu'on va goûter, mais non. C'est un exercice qu'on trouvait rigolo. Ouais. Tu nous as apporté
Je vous ai apporté deux bébés vins. Le premier que vous goûtez, là, en fait, c'est ce que j'ai soutiré ce matin. C'est un assemblage de mes différents terroirs sur Régnier, donc sur un secteur qui s'appelle la Haute Ronze. Donc là, il y a tous mes terroirs là-dedans, en une cuvée. Donc, il y a eu à peu près, je dirais, 16 ou 17 jours de macération plutôt longue, où j'ai fait... J'ai fait deux opérations d'extraction qu'on appelle le foulage. Donc, c'est-à-dire, en fait, je suis tout simplement monté en short dans ma cuve, pieds nus, et puis j'ai foulé les raisins, tout simple. J'ai commencé à faire ça au moment où j'avais déjà beaucoup d'alcool.
Dans
la cuve.
Il était 3h du mat. Voilà, je me suis dit, je vais aller fouler un peu.
Voilà. Et tout ça parce que, en fait, quand vous voulez faire une opération d'extraction, c'est intéressant de faire ça quand vous commencez à avoir de l'alcool, parce que l'alcool est un solvant très puissant. Donc, en fait, quand vous extrayez de la couleur en foulant, parce que vous foulez la peau des raisins, donc la couleur sort. Vous extrayez aussi des tanins, l'alcool va servir de lien et va faire en sorte de fixer les tanins et la couleur. C'est ce qu'on appelle vulgairement la polymérisation. Voilà. Et donc, ça me permet de donner de la structure au vin, d'être sûr que cette structure va perdurer. L'avantage d'une opération de foulage, c'est que c'est pas quelque chose de très violent. Et moi, ça me convient très bien parce que j'ai pas non plus envie d'extraire trop de matière, d'avoir des vins qui sont trop durs, trop charpentés. C'est pas mon style. Il y a des gens qui font ça, qui font des très très bons vins. C'est leur goût. Moi, c'est pas ma sensibilité. Voilà. Donc.
On va parler de ton idée de vin et de tes objectifs. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce vin en devenir ? Est-ce que déjà c'est déjà du vin ? Qu'est-ce qu'on en tire en termes d'arôme ? Louise, ça t'inspire quelque chose ?
Alors on sera plutôt sur des petits fruits rouges, je dirais, comme la framboise, la fraise des bois. C'est un vin assez fruité.
Est-ce qu'on est à combien de degrés d'alcool là, sur ce...
On est vers 13... que je dise pas de bêtises, vers 13, 13,5, entre 13 et 13,5.
Du point de vue de l'alcool et de la structure, on est déjà sur un vin finalement.
Ah oui, on est déjà sur un vin.
Tu pourrais l'embouteiller là,
non.
Tel que ça ?
Non,
qu'est-ce qui lui manque ?
Qu'est-ce qui lui manque ? Il lui manque en fait une étape fondamentale dans la construction d'un vin rouge, c'est la fermentation malolactique. Qui consiste en la transformation via des bactéries lactiques de l'acide malique en acide lactique. Voilà, l'acide malique, en fait, c'est un acide qui donne vraiment un côté très très vert, très très dur en fait au vin, qui donne un aspect pomme. Hein, c'est la racine latine hein, de pomme, c'est malus. Hein. Et donc, en fait, tous les vins rouges doivent faire leur malolactique parce qu'en fait, la malolactique adoucit le vin, le rend un peu moins acide, plus digeste, et surtout lui donne de la rondeur et lui donne de la largeur. Et là, vous le constatez bien, on est encore dans un vin qui est quand même très...
Ouais, c'est encore un jus, quoi.
Il est là, le vin est là en lui-même, la structure est là, mais on sent que l'acidité est vraiment très, très présente.
Ça manque encore un peu d'éducation.
Voilà, donc il va devoir faire sa malolactique. Normalement, avec un peu de chance, ça va se faire dans pas très longtemps. Mais voilà, donc non, je pourrais pas l'embouteiller maintenant. Voilà, clairement.
Est-ce que tu lui donnes des baffes à ton vin ou pas?
Non. non, je lui en donne pas. Non, au contraire, je chante des berceuses.
Donc pas d'intrant à la vigne, pas de recours à la chimie à la cuve.
Pas d'intrant à la vigne. Les seuls intrants que j'utilise, c'est le cuivre et le soufre. Voilà, qui sont des intrants. Hein.
Oui. Autorisés dans le cahier des charges bio, puisque tu es en.
Qui sont autorisés dans le cahier des charges bio. Sachant que même si on est en bio, et ben ça ne veut pas dire non plus qu'on peut lui parler seul, hein, puisqu'on met du cuivre. Mmh. Donc à un moment, il va falloir vraiment que les bio commencent aussi à réfléchir à
des alternatives au cuivre.
Alternatives au cuivre, et je ne parle pas des cépages résistants. Voilà.
Dont tu as déjà parlé.
Dont j'ai déjà parlé.
Dans cette émission.
Voilà. Et puis,
là, tu es en conversion bio ou tu es déjà...
Non, je suis en conversion bio.
Tu es en conversion bio.
Voilà. Mais j'ai déjà... Je cultive sans désherbant chimique, j'insiste. Sans glyphosate, donc. Et puis, je ne mets que du cuivre et du soufre ou des intrants autorisés en bio. Voilà. Après, à la cave... c'est un vin qui a été vinifié sans sulfite ajouté, sans soufre ajouté. J'avais un état sanitaire tel pour mes vendanges qui était tellement bien que je n'avais pas eu besoin de soufre. Et puis surtout, c'est une année où j'avais des équilibres qui étaient vraiment optimum, avec des pH bas pour vinifier qui étaient idéaux.
Donc des vins acides, un pH
acide.
Une bonne acidité.
Voilà, une très bonne acidité et qui me permettait justement d'avoir un milieu microbien qui était sain. Et ça, c'est génial. Et en ce qui concerne la fermentation en elle-même, je l'ai conduite avec des levures sèches actives, mais des levures neutres, donc c'est-à-dire des Saccharomyces qu'on trouve naturellement dans les raisins. J'ai fait un choix de pas utiliser d'avoir recours aux levures indigènes, tout simplement parce que j'ai un cuvage où il n'y a pas eu de vin pendant une dizaine d'années, donc j'ai pas une population levurienne qui est suffisante. Et puis surtout, j'ai aussi sur mes raisins très peu d'azote disponible. L'azote, c'est le carburant et le nutriment des levures. Donc, si vous avez peu d'azote, eh ben, les levures en fait ont beaucoup de mal à se nourrir et à démarrer leur fermentation. Et donc, quand vous êtes en levure indigène, à un moment, les levures indigènes elles vont démarrer, mais vous allez peut-être avoir du temps avant que la fermentation démarre. Et ça, c'est un véritable problème.
On sentait que c'était un peu le suspense, moi qui n'y connais rien, quand on venait faire un petit tour le matin, je sentais qu'il y avait un suspense sur est-ce que la fermentation est bien partie ? Parce que visiblement, c'est pas toujours le cas. Et,
elle peut partir également et s'interrompre, s'arrêter.
Oui, il peut y avoir en fait, des arrêts fermentaires pour diverses raisons. Soit parce que en fait, il n'y a pas assez d'oxygène et donc les levures n'ont pas la possibilité de se démultiplier et donc de croître et puis d'être en nombre suffisant pour conduire une fermentation, surtout sur des volumes aussi importants. Il y a aussi un niveau de sucre qui peut être très élevé. Les années chaudes, les fermentations indigènes sont extrêmement complexes à mener parce qu'il y a tellement de sucre que parfois les levures sont gavées en fait. Voilà, donc c'est des exemples où ça peut être très très compliqué de faire démarrer une fermentation. Ouais.
On va goûter un deuxième jus, on va écouter avant ça un deuxième son que vous avez pris, je crois que c'est un autre moment auquel vous...
Ça doit être le lendemain.
C'est le lendemain, vous goûtez. Et on parle de cuvage.
Là, on va aller sur le haut de la cuve numéro 1.
Okay.
Alors là, on est dans le cuvage. Il suffit de pousser la porte de la cuisine pour rentrer dans le cuvage. Donc en fait, on est dans un cuvage qui est typiquement Beaujolais. Donc tout en longueur, avec un quai pour circuler. Et là, on a en face de nous 6 cuves béton de 60 hectolitres chacune. Là-dedans, je vais pouvoir vinifier à terme à peu près 8 à 9 hectares.
Quel raisin ?
Alors ça, c'est Régnier. Ça, c'est ma première cuvée de Régnier, ça. C'est la cuvée numéro 1. Et c'est une parcelle d'un hectare qui est à plat, d'un seul tenant, sur un secteur de Régnier qui s'appelle la Haute Ronze, qui est un secteur très qualitatif, qui est même l'un des plus beaux secteurs de Régnier et qui est en altitude. Voilà, ce qui est intéressant, c'est d'avoir de la tension, de la fraîcheur, avec de la matière, pour que ça fasse des vins complexes, riches, mais aussi qu'ils soient faciles à boire. C'est ma première vinif tout seul. Après, j'ai quand même j'ai bossé 4 ans avec Éric Janin à Romanèche-Torin, là, qui fait des grands moulins à vent. Donc j'ai un peu une idée de là où j'ai envie d'aller par rapport à ce que Eric faisait, quoi. Après, sans nécessairement copier. Il faut faire les vins qu'on aime avant tout. Il faut aussi réfléchir à ce que les gens boivent aujourd'hui, tu vois. Et puis surtout, on est dans le Beaujolais, donc on a la capacité aussi à faire des vins qui ont de la structure, l'élégance du fruit, de la douceur. Je trouve que c'est important de rester dans ces équilibres-là.
Bah, j'ai hâte de le boire, celui-là.
Bah, moi aussi, j'ai hâte.
Louise, j'ai envie de te faire réagir par rapport à ça, parce que Philippe parle de son idée de vin, et puis il dit qu'il faut quand même avoir un peu en tête ce que les gens attendent, finalement. Qu'est-ce que toi, qui es au contact de clients en restauration, qu'est-ce que, à ton avis, les gens attendent du Beaujolais aujourd'hui ?
Je pense que les gens, ils attendent du Beaujolais qu'il soit facile à boire, en quelque sorte, soyeux, gourmand, qui s'accompagne facilement lors d'un repas à midi, par exemple. Donc voilà, on attend de la gourmandise et de se faire plaisir, je pense, à mon avis.
Du fruit, on oublie un peu la puissance et on cherche
voilà,
de la légèreté.
Voilà, on cherche plutôt de la
cette
légèreté.
Cette fameuse buvabilité.
Voilà, du fruit et puis de la gourmandise. On est là pour se faire plaisir et je pense que c'est important que les clients, eux, se fassent plaisir à table, même sur un Beaujolais aujourd'hui.
Philippe, pour repartir sur cette idée de vin. Alors, faut dire qu'on a un autre
ouais. Alors justement,
jus de cuve.
Ça tombe bien parce qu'en fait, le son que tu viens de passer correspond avec le jus.
Ben, voilà. C'est incroyable.
C'est incroyable. Et pour
c'est les effets spéciaux.
Y aura-t-il des gens qui réfléchissent dans ce podcast ?
C'est étonnant. Et en fait, pour revenir à ce que Mathieu disait là, juste avant que tu passes le son là sur. Le stress du matin là sur est-ce que la fermentation est partie, est-ce que ça turbine bien. Mais en fait c'est ça, moi le premier réflexe le matin, c'est je me lève, je m'habille, je descends dans le cuvage,
je bois un coup,
je monte je monte en haut des cuves. Et j'enlève le bouchon.
J'écoute mes raisins.
J'écoute les cuves pour voir si.
Non, mais si tu mets l'oreille du micro, on n'entend plus.
Non, mais oui, pardon, excuse-moi. je suis conditionné. Donc, j'écoute si la fermentation, en fait, si ça pétille, ça bouillonne.
Ça fait du bruit. Sur Instagram, c'est gavé de vignerons qui font écouter le bruit de leur vin qui ferme en plus.
C'est vrai qu'il y a un côté.
Un peu magique, quoi.
Mais, et puis. Gourmand, quoi. T'as vraiment envie d'aller.
C'est ça. Et puis tu mets
une paille dedans.
Et puis tu mets le nez au-dessus pour voir s'il y a du gaz. Voilà. Parce que la fermentation dégageant du dioxyde de carbone, bah, dès que tu mets le nez dessus, en fait, tu
ouais, t'as un sursaut.
T'as un sursaut parce que bon, c'est très agressif.
C'est comme ça qu'on a inventé le poppers. Mais bon, après, voilà.
Et je te bouscule.
Et tu ne te réveilles pas. Mais donc voilà, et c'est un peu le. Voilà,
on peut dire même que d'ailleurs que c'est dangereux. Hein.
Bah oui, il faut faire très attention.
Il faut aérer extrêmement cette partie de cuvage parce que trop de dioxyde de carbone, il peut y avoir
des accidents, des gens qui meurent parce qu'ils tombent dans les cuves et qui sont asphyxiés par le dioxyde de carbone.
Et donc,
le rapport avec le jus qu'on est en train de boire là.
Donc c'est la cuvée Autre 11. C'est ma première cuvée de.
Félicitations.
De Régnier. Donc ce sera une cuvée un peu moins structurée que celle qui est. Que vous avez goûté avant. C'est une parcelle d'un hectare, donc c'est un parcellaire qui est situé sur un secteur de Régnier qui s'appelle la Haute Ronze, qui est un très beau terroir de cette appellation, avec des sols de granit rose. Le granit, il y en a un peu partout dans le Beaujolais. Des sables, du limon, des schistes. Voilà, donc ça crée des vins. En fait, on est sur des sols pauvres, les racines sont obligées d'aller puiser très 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 profond dans le sol, et donc en fait c'est des sols qui sont très drainants. Donc en fait, ça donne des vins en tension, en légèreté, voilà, et des vins qui peuvent être souples. Donc c'est un peu l'esprit que je voulais donner à cette cuvée.
Rien à voir avec le premier, alors. Je ne sais pas si on a la même maturité.
Mais oui, c'est très différent.
Beaucoup moins d'acidité perçue, déjà beaucoup plus formatée.
Et plus soyeux.
Plus soyeux. Par rapport au premier, en tout cas.
Pour moi, on est un peu moins sur le fruit aussi. Hein. Et c'est moins jus de raisin, c'est moins proche d'un jus de raisin.
Je dirais que c'est moins des fruits rouges type fraises, etc. On est plutôt sur des fruits déjà un peu plus, pas confits, mais on est sur des fruits un peu plus... pas pruneau non plus, mais c'est pas la fraise, quoi.
C'est plus cerise, c'est plus un petit peu.
C'est plus mûr, cerise, etc.
Ouais, quoi. Peut-être un peu kirché.
Ouais, noir, plutôt. Ouais.
On est plus kirché et moins fraise.
C'est ce que je pense.
C'est mon avis.
Moi, cette question de l'idée de vin m'intéresse. Là, tu penses, pour toi, ce jus, il est parti dans la bonne direction, celle que tu voulais lui donner, celle que tu attendais de lui, en comparant peut-être avec des voisins qui ont le même terroir que toi et qui font des vins que tu apprécies. Tu dis, voilà, si il faut avoir des références. Enfin, quand tu es dans une logique de création.
Alors moi, j'ai pas encore goûté en fait les jus de Raphaël Chopin, qui est un de mes collègues là, sur Régnier.
Tu veux dire, t'as pas goûté les jus de cette année ?
De cette année.
Mais tu connais ces vins.
Oui,
des millésimes précédents.
Je connais ces vins et après les vins de Raphaël Chopin, c'est... Enfin, de toute façon, globalement, il y a une homogénéité hein, sur une appellation en général. Enfin,
ce que je veux dire, c'est par exemple, tu as fait tes classes chez Paul et Eric Janin en Moulin avant. C'est du Gamay, c'est le Beaujolais, c'est le même climat.
On est sur des vins qui sont beaucoup plus structurés et qui sont beaucoup plus au nord.
Vous n'avez pas le même terroir.
Et on n'a pas les mêmes terroirs, et donc on ne va pas faire les mêmes vins. Et
voilà, c'est ça. Tu ne peux pas te dire à Régnier, je veux faire des vins comme les moulins à vent.
Je ne pourrais jamais faire des Morgons ou des moulins à vent. Parce que ça,
le matériau que tu as à disposition ne te permet pas de faire.
Le matériau n'est pas le même. Et puis, la semaine dernière, justement, j'étais chez Eric. J'ai amené mes vins. Et puis, on a goûté ces vins. Et on était dans deux directions très différentes. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait la diversité du Beaujolais. Ma voisine, qui est directe, hein, c'est donc Migodard, qui fait des excellents morgons, et puis en plus, qui est très dans l'extraction, on ne fait pas du tout les mêmes vins. Quoi. Et puis tu ne peux pas faire, avec du Régnier, tu ne peux pas faire des morgons, c'est impossible. Et puis... Je pense que je suis sur un terroir où il vaut mieux pas aller essayer d'aller chercher de la matière ou qui risquerait en fait de ramener des éléments qui sont pas plaisants. Je pense que Régnier c'est des vins souples sur le fruit, sur avec une belle structure, mais on fera jamais des morgons. Quoi. Voilà. Mais il en faut pour tout le monde.
Alors, Après avoir goûté quelques bébés, Patrice a décidé de prendre les choses en main. Il fait goûter des vins adultes.
Il parle de Morgon, alors je sers un Morgon.
Voilà, c'est ça.
Enchaînement.
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 Quelle préparation, c'était époustouflant. Patrice, pendant que tu sers, tu peux faire la même. Tu peux parler en même temps que tu sers. Qu'est-ce que c'est que ce Morgon?
Ce Morgon-là, c'est la base.
C'est la base.
C'est la base des vins naturels déjà, parce que c'est un vin de chez. Alors maintenant Mathieu et Camille Lapierre, avant Marcel Lapierre. On en a un peu parlé dans une émission précédente.
On en a souvent parlé
sur les vins nature. Mais pour info, donc c'est un disciple de Jules Chauvet et c'est le premier homme connu, en tout cas en France, qui fait des vins nature. En 1978, c'est-à-dire 5 ans avant Pierre Auvernois, qui a commencé ses premières cuvées nature en 83. Et donc, c'est un vin voilà, qui est assez représentatif de ce que le Beaujolais, ce que sont les vins nature. Alors, pour l'anecdote, donc, Domaine Lapierre, c'est 13 hectares, dont 2 en Morgon, en Vidé Morgon, dont 2 en Côte-du-Py. Et puis, à l'origine, donc le domaine existe depuis le début du siècle. Et Marcel a repris en 73, a vinifié sa première vendange en nature ou quasi-nature en 78 et a été certifié en bio en 81. Donc autant dire que c'est un des premiers hommes en France.
On est chez les pionniers là.
Ouais, les pionniers, ouais.
Le premier exactement. Homme à avoir marché dans le Beaujolais bio.
C'est ça. Et puis d'abord, il était accompagné d'une équipe de tarés à l'époque, hein, qui était Jean Foyard, Chanudet, Di Polpo, sauf erreur de ma part.
Non, c'est Thévenet.
Thévenet,
c'est Di Polpo.
Exactement. Donc Max, 4-5.
Max Breton.
Voilà, Max Breton, petit Max. Et ce qui est marrant, c'est que tout ça s'est repris maintenant par les fils respectifs de toutes ces personnes-là, qui poursuivent un petit peu le travail nature. Et puis moi, c'est le premier vin nature qui m'a amené au vin nature. Et c'est vrai que c'était un choc gustatif assez important.
Philippe, pour toi, c'est une référence ce type. Alors, tu vas pas dire du mal de Marcel Lapierre, mais
non,
est-ce
non,
que
non, mais
ça
en fait,
participe à ton envie de faire du vin dans le Beaujolais, par exemple?
Oui, bah forcément. On va pas dire que c'est un Graal, mais c'est-à-dire que les Lapierre, c'est un peu le vaisseau amiral du Beaujolais. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui vient à l'esprit des gens quand on parle de Beaujolais ou de Morgon? Lapierre.
Oui, c'est la signature qui est la plus connue à l'international.
Voilà, c'est tout le monde connaît et tout le monde. Mais
est-ce que ça fait
Les bons jeux de mots, c'est la pierre angulaire.
Non, mais ce que je veux dire,
jeu de mots.
Ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est des gens qui ont participé au fait de mettre le Beaujolais sur une carte et grâce à qui on peut dire bah voilà, dans le Beaujolais, il y a du vin quoi. On fait des grands vins. Et c'est vrai, on fait des grands vins dans le Beaujolais, au même titre qu'en Bourgogne, dans un autre style, dans un autre esprit, mais c'est des grands vins. Voilà. Et Mathieu et Camille perpétuent la tradition. À leur manière, ils y apportent leur sensibilité. Parce que forcément quand Marcel est décédé en 2010, ça a été un peu ça a été dur parce qu'en fait Marcel il est décédé juste après les vendanges. Voilà. Donc c'était le truc totalement inattendu. Non, c'est, d'ailleurs c'est 2009 en fait.
Non, il est 2010, il avait 60 ans.
Ou 2010, mais et donc du coup enfin je pense que Mathieu était encore relativement. Oui, je pense qu'il devait avoir à peine 25 ans. Vous retrouvez à reprendre un domaine et puis il faut habiter le costume, il faut remplir le costume du père, quoi. Voilà. Et donc heureusement, y a toute la bande autour, Foyard et compagnie, pour accompagner. Mais ils ont fait le job. Et puis vous avez des initiatives comme BBB qui sont qui naissent dans l'idée d'un Mathieu, Lapierre.
Bien boire en Beaujolais.
Voilà, bien boire en Beaujolais, dont on a déjà souvent parlé. Laurent, toi, au Wine Therapy, on te demande beaucoup de Beaujolais. Tu sers des Beaujolais. Est-ce que ça ressemble à ces... Est-ce que ce Morgon, qui est un peu un classique, ce Morgon de Lapierre, du domaine de Lapierre, c'est pour toi une référence aussi ou t'es...
Alors,
T'es porté vers d'autres types de
vins. Demande du Beaujolais, malheureusement pas assez, je trouve. Hein, ça fait partie de ces régions qui sont.
Ça va changer quand tu m'achèteras plein de vins.
Ouais, bah, je t'en ai acheté un peu et c'est vrai que je suis pas.
Ça se vend pas, c'est une catastrophe.
Non, mais je suis pas satisfait du rythme auquel je les vends, c'est clair. Il y a pas une demande spontanée. Bon, moi, ce qui me sauve, en tout cas, ce qui me permet de vendre du Beaujolais, c'est de le servir à l'aveugle.
Hein, il séduit à l'aveugle.
Il séduit à l'aveugle. Alors, la difficulté du Beaujolais, c'est que comme beaucoup sont effectivement ceux que je choisis, beaucoup sont très propres, sont limite nature. Là, les Lapalus, par exemple, ils n'ont pas une durée de vie très très longue.
Ouais, c'est sûr.
Du jour au lendemain, on peut être obligé de les mettre dans l'évier si on n'a pas vendu toute la bouteille dans la soirée.
Ah oui, à ce point-là.
Et tu les élcoraves?
Ouah, c'est pas des bouteilles qui justifient d'investir sur une cartouche d'argon. C'est un non-sens pour moi économique, en tout cas.
Oui, dans la technologie, la Coravin, capsule d'argon. On expliquera une autre fois.
Le Coravin, c'est ce qui te permet de servir un verre sans ouvrir la bouteille. La seule chose, c'est que pour maintenir l'état du vin, tu injectes donc un gaz.
Qui remplace le volume que tu as prélevé.
Voilà, pour que
un gaz inerte,
pour qu'il n'y ait pas d'oxydation. Bon, le coût de la cartouche ne justifie pas sur une bouteille, en tout cas une bouteille de Lapalus, par exemple, ne justifie pas d'utiliser.
Tu fais ça quand tu vends des Romanée Conti.
Exactement, ouais, exactement. Ça vaut le coup. La seule chose, c'est que je n'ai pas trop de Romanée Conti. Mais bon. Donc,
très fière, ils en ont pour ça qu'elle sourit.
Toujours est-il que c'est difficile de mettre en avant les Beaujolais qui sont, moi, à mon sens, très fragile, beaucoup plus fragile que la plupart de mes vins, au vert. Ça, c'est la difficulté. Mais sinon, c'est amusant d'emmener les gens, effectivement, sur le Beaujolais, à l'aveugle, parce que souvent, il plaît. Alors que si vous dites spontanément, vous voulez un Beaujolais, on va vous dire, non, mais moi... Non,
my God, anything voilà. But Beaujolais. Quoi.
Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça.
J'aime pas le Beaujolais, mais j'aime bien le Morgon.
Oui, alors j'ai ça aussi. Oui. Pas de Beaujolais, non. Et un Morgon.
On a déjà parlé du Beaujolais, on sait bien que le phénomène Beaujolais Nouveau y est pour beaucoup dans cette...
On va repartir en croisade là, avec l'arrivée justement du Beaujolais Nouveau, qui est quand même toujours l'occasion de parler de Beaujolais et de faire goûter du Beaujolais, même si il a ses travers. L'événement du Beaujolais Nouveau est intéressant.
Deuxième jeudi de novembre.
Troisième
jeudi de novembre.
Une mauvaise publicité, c'est quand même de la publicité.
On peut dire ça.
Philippe, les vendanges sont finies, le vin est en cuve. Tu as une idée déjà de quand est-ce que tu vas le mettre en bouteille?
Ouais, j'ai un élevage qui va être entre 8 et 10 mois en fonction de la façon dont évolue le vin, dont je le goûte et dont il me plaît. Parce qu'on va quand même avoir, je pense, la trame sur ce millésime, hein, c'est quand même des vins très sur le fruit. Que ce soit dans l'ensemble des crus, c'est un peu ce qu'on a.
Ça, c'est le millésime 2019.
C'est le millésime, quoi. On est sur des vins, très, très sur le fruit. Et donc, ça va peut-être écourter l'élevage. Peut-être pour garder justement ce côté très gourmand, friand, digeste. Voilà. Là, par contre,
je fais une petite interruption
parce que le Morgon là qu'on est en train de goûter, les Morgons sont des vins qui ont quand même une certaine charpente. Hein. C'est des terroirs qui sont très forts. Et puis là, on est sur 2015, en fait, c'est un miroir un peu déformant. C'est un millésime hors norme, avec une grosse sécheresse, des titres alcooliques très élevés. Un millésime qui a quand même été adoubé par plusieurs sommeliers comme un millésime exceptionnel. Mais c'est pas un profil de vin habituel pour le Beaujolais. Hein, donc c'est des vins qui sont très solaires, très, très charpentés, un peu, je dirais pas bodybuildés, mais qui sont un peu costauds.
On a du fruit, du fruit très mûr.
Il y a du fruit très mûr, il y en a même qui ont fait l'erreur d'aller chercher de la surmaturité et de la surextraction. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Hein. Mais voilà.
Effectivement, on a 13,5, ce qui est pas mal déjà pour un Beaujolais. en 2015.
Mais c'est quand même
très bon, il y a beaucoup de
rangs. Mais c'est très bon,
vous êtes tous d'accord pour dire que c'est très bon, c'est pas forcément représentatif d'un Morgon, d'un Beaujolais, d'un Gamay.
C'est pas un représentatif du Beaujolais
standard. C'est très représentatif de la pierre, par contre.
Mais par contre, le style de la pierre est là, ça c'est sûr. Voilà. Et après, je pense que
très perlant, à l'ouverture. Ouais.
Hein, oui, t'as fait un peu la grimace.
Moi, honnêtement, il faut vraiment secouer la bouteille.
Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense qu'en plus, pour 2015, faire des vins à 13,5, je pense que c'est très bien.
C'est déjà un tour de force, en fait.
C'est un tour de force parce qu'il y en a qui sont allés chercher les 15. À 15, avec des acidités qui étaient un peu en. Qui était bien bancal.
Un vin lourd, un peu plat. Quoi.
Je pense qu'il y a des gens qui ont tartriqué en 2015.
Ouh.
Voilà. Ah, le mec, juste à la fin, il balance des termes techniques.
Que laisses-tu entendre?
Non, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez des acidités qui sont un peu hautes et qui ne vous permettent pas d'avoir des déséquilibres en vinification, vous faites des corrections tartriques, c'est autorisé. Hein.
Mais t'es un peu basse, là, plutôt, non? Tes acidités, elles étaient plutôt un peu basses.
Oui, mais les pH élevés, en fait.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et donc, on fait une correction tartrique pour remettre le pH d'équerre et faciliter la fermentation. Voilà. Non, c'est pas tant pour donner la tension, mais c'est pour permettre surtout de vinifier dans des bonnes conditions. Voilà.
Ok, alors, c'est triché?
Non, puisque c'est autorisé, tu as le droit de faire des corrections tartriques.
Mais idéalement, tu n'as pas à faire ça.
Ce sont des intrants.
Ce sont des intrants, donc tu. C'est autorisé, tu peux faire des corrections tartriques quand tu es en bio.
Mais déjà, dans le terme, correction. Tu n'as pas bien fait la première fois.
Non, mais c'est-à-dire que.
Bing, prends ça, le gamin.
L'idée du vin nature, c'était évidemment de faire avec ce que la nature te donne.
Le moins possible.
Voilà. Et donc. D'être le moins possible dans la manipulation.
Merci Philippe Viette de nous avoir parlé de ses premières vendanges du domaine
plaisir.
Philippe Viette en cru Régnier et en Beaujolais Village.
Et l'année prochaine en cru Fleury et en Beaujolais.
Ah oui, bravo.
Monsieur s'étend, il achète des vignes.
Encore un Anschluss.
Les Parisiens débarquent en Beaujolais. Merci Mathieu. Il y a des photos, j'imagine. Il y a un petit reportage comme à ton habitude sur ces vendanges.
Sur Instagram.
Qu'on trouvera sur Instagram, sur lesvoyagesdemat.com, j'imagine aussi.
Aussi.
Voilà, et puis on les relaiera peut-être sur le site de la Terre à Boire.
Puis même Mathieu, t'es bienvenu l'année prochaine pour retrier les raisins chemins.
Ah, mais moi, c'était un plaisir, je reviens à plusieurs même.
Génial. Alors, nous, par contre, non. Les vendanges, ce sera vendredi, histoire que les Parisiens.
Je vous ai déjà dit que j'avais besoin de main-d'œuvre corvéable à merci et gratuite.
On vous suit tous les deux sur les réseaux pour voir un petit peu l'évolution de cette histoire, parce que c'est ça aussi, vignerons modernes, on est sur les réseaux, pour poster des photos, des vidéos, des levures qui sont en train de glouglouter. Voilà, merci pour le bruitage, Mathieu. Merci, Louise, pour cette première. On se reverra, sans doute, à ce micro, pour parler de vin. Merci, Grégor, qu'on n'entend pas, mais qui fait le son, et ça fait bien plaisir d'avoir quelqu'un qui s'occupe du son. Patrice, Laurent, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.
Yes. À bientôt.
On a un certain nombre de thèmes. On va sûrement aller faire un tour sur un salon des vins qui a l'air assez sympathique début novembre, à base de levée de la Loire, à base de biotope, avec des vignerons bio.
De Jura.
Des vignerons bio d'un peu partout en France. Et puis, je peux vous dire qu'on prépare déjà des choses pour l'épisode de Noël qui vont être assez sympathiques. Merci à tous, on se retrouve dans une paire de semaines. Suivez-nous, soutenez-nous, envoyez-nous des messages. On reçoit de plus en plus de messages, des messages plutôt sympathiques, c'est très agréable. Je ne vais pas les lire, mais sachez que ça nous fait très plaisir et on répond systématiquement. Et si vous avez des critiques aussi à émettre, n'hésitez pas, on les lira également et on y répondra de la même façon. Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Salut, merci le public. Bye bye.